France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, émission spéciale André Messager à l'occasion du passionnant ouvrage que vient de lui consacrer Christophe Mirambeau, grand passionné d'opérette et de comédie musicale. Après Albert Villemette ou Maurice Yvain, il s'est penché sur la vie et l'œuvre du compositeur de Véronique et nous en profiterons pour écouter avec lui des partitions rares de Messager comme la Béarnaise, Béatrice ou la Petite Fonctionnaire. De quoi agrémenter ce mois de rentrée qui n'est pas forcément triste. Moi, par exemple, je suis toujours content de retrouver Paris.
Ne me demandez pas si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander au marin qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, 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 c'est sur la terre un coin de paradis. Paris, 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 de mes amours c'est lui le favori. Mais oui, paradis, ce que j'en dis on vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne, qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
Paris, Paris, Paris,
madame, c'est votre robe si jolie.
Paris, Paris, Paris,
c'est votre beau bijou d'un goût exquis. Mais oui, Paris, c'est aussi votre généreux mari. Mais oui, Paris, c'est votre boucle blonde qu'on sait le mieux du monde coiffée avec fantaisie. Mais oui, Paris, c'est votre beau sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Et c'est aussi le charme et l'élégance et l'âme de la France, tout cela, oui, c'est Paris.
Ah, je ne sais pas si c'est toujours le Paris d'aujourd'hui que chantait Joséphine Baker en 1949. En tout cas, elle était bien charmante, cette ville-là. Et nous allons maintenant enfiler vers une montagne qui est également charmante. C'est la Forêt Noire en Allemagne. Parce que cet été, figurez-vous, j'ai rencontré un jeune pasteur allemand, très sympathique d'ailleurs, établi dans la Forêt Noire. Et il ne connaissait pas ce tube de la musique récréative, comme on disait autrefois, qui a pourtant circulé dans le monde entier, qui s'appelait « Die Mühle im Schwarzwald » de Richard Eilenberg, ça veut dire les moulins de la Forêt Noire. Il en existe des quantités de versions, avec bien entendu le bruit de l'eau sur le moulin.
Thank you.
Voilà pour mon cher pasteur allemand de la Forêt Noire, les Moulins de la Forêt Noire, dans une version de l'orchestre Borkales, enregistrée en 1952.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec mon invité pour un spécial André Messager. Car mon invité, eh bien, c'est un passionné, un grand connaisseur de l'opérette, des revues de musicals, de la comédie musicale. C'est aussi un travailleur infatigable. Il a publié de nombreux livres, d'Albert Villemetz à Luis Mariano, toujours très très documenté. Il a monté beaucoup de spectacles, des revues de musicals d'avant-guerre qu'il a remontées telles quelles. Et puis il a mis en scène récemment avec les frivolités parisiennes des opérettes de Maurice Yvain, comme Yes, Gosse de Riche. Il a travaillé aux éditions universales sur le fonds Salabert qui contient des quantités d'opérettes et d'œuvres que nous aimons. Bref, il n'arrête pas. Il vient de consacrer 500 pages à André Messager, le passeur de siècle, le premier ouvrage complet sur ce grand compositeur. J'ai le plaisir d'accueillir ce matin Christophe Mirambeau.
Pas plus tard, chez un homme de l'art, nous avons consulté la sage faculté. Le docteur émérite, nous ayant écouté, ausculté,
ausculté,
tapoté,
tapoté.
C'est écrit et bien vite, oh les belles santé.
C'est écrit et bien vite, oh les belles santé.
N'avez rien, pas ça, pas même Corisa. Mais si vous le voulez, allez, allez, oh, oh. Bien sûr, vous ne risquez rien. On ne risque rien, car si ça ne fait pas de mal, ça ne vous fera pas de bien. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là. Cette consultation fit notre admiration et nous avons très grand donné chacun 20 francs. L'ordonnance mérite ce prix-là, c'est certain. C'est très sain,
c'est très sain,
très, très malin,
très malin.
Nous avons dit bien vite, oh le grand médecin.
Nous avons dit bien vite,
pas le grand médecin. Allez, quelques pas, reprenons un sleeping car. Et tout droit des talons, allons, allons, osons. Parce que nous ne risquons rien, car si ça ne fait pas de mal, ça ne vous fera pas de bien. Et voilà pourquoi nous sommes là. Et voilà pourquoi nous sommes là. Pourquoi nous sommes là.
Bonjour Christophe Mirambeau.
Bonjour Benoît Dutertre.
Heureux de vous retrouver ici. Alors pour parler d'André Messager, j'ai voulu commencer, et ça va être le sujet toute la matinée, par une œuvre rare, peu connue, presque inconnue parce que jamais montée. Là c'était Miss Dollar, un petit air de Miss Dollar chanté par Denise Duval. Vous pouvez me dire un mot peut-être de cette œuvre, Christophe Mirambeau ?
C'est une œuvre extrêmement intéressante qui n'a jamais été remontée depuis sa création.
Ah oui, alors donc depuis 1893.
Voilà, sans doute à cause des moyens qu'elle exige parce que elle a été créée au Nouveau Théâtre qui est donc actuellement le Théâtre de Paris.
Ah oui. Il faut rappeler aux auditeurs, presque tous les théâtres de Paris étaient des théâtres d'opérette à l'époque.
Il y a des théâtres musicaux partout et des fausses orchestres, y compris dans les théâtres parlés. Ouais. Parce qu'on y joue de la musique de scène. Et donc, au Nouveau Théâtre, la politique des directeurs, depuis le succès d'une pantomime jouée par Félicien Mallet, coécrite par Messager et Georges Street, qui s'appelle Scaramouche, qui fut un énorme succès, ont décidé, ces directeurs, de conduire la programmation de leur théâtre vers la féerie ballet. Alors donc, cette Miss Dollar, qui est vraiment un vaudeville extrêmement marrant et très amusant, a pour particularité de demander énormément de décors, de costumes, et propose au troisième acte un énorme ballet très très long, avec moult décors, figurations et danseurs, qui s'appelle « La fête de l'argent ».
Parce que c'est l'histoire, il faut dire, d'une petite Française avec un milliardaire américain.
Avec un milliardaire américain, évidemment. Et donc, du coup, il se retrouve dans des mines d'argent en Amérique du Sud, où il y a des gnomes, des feux follets, tout un tas de choses totalement féeriques. Et c'était le clou absolu de la partition de Messager et du spectacle.
En tout cas, ce qui est très joli dans cet extrait chanté par Denise Duval, on trouve vraiment... On peut dire la ligne de Messager, cette grâce mélodique, ce sens des mots comme ça, très efficace, cette musique qui a l'air de rien mais qui est très bien faite, quoi.
C'est surtout que mélodiquement c'est tout le temps fluide et on remarque une chose chez Messager, et vous allez être d'accord avec moi, il n'y a pas, ce que je dirais vulgairement, de déchets. Ouais. On n'a pas de déchets dans les lignes mélodiques qui seraient des lignes inspirées, on va dire, de la musique ou de l'air du temps, comme par exemple chez Raoul Moretti dans les années 20, où finalement ce sont tous les foxtrots, toutes les chansons de music-hall du temps qui se retrouvent retrouve dans son inspiration mélodique. Non, chez Messager, c'est toujours quelque chose de personnage, fluide et qui coule avec évidence.
Et grâce donc à nos archives conservées par l'INA, eh ben on va pouvoir aujourd'hui découvrir des aspects peu connus de l'œuvre de Messager, auquel vous venez donc de consacrer ce livre, André Messager, le passeur de siècles. Je pense que beaucoup d'auditeurs savent, Christophe Mirambeau, que vous êtes un passionné de musique, de chansons, de spectacle musical. Mais alors, je vous avais reçu d'abord pour Luis Mariano, puis pour Barbara Streisand, et puis après on a remonté, on a beaucoup parlé ensemble d'opérettes des années 20, de Sacha Guitry, de Villemette. C'est maintenant vous remontez en avec André Messager, vous remontez le temps en quelque sorte dans vos goûts.
J'explore tous les paysages qui me semblent fascinants et passionnants et qui n'ont pas encore forcément bénéficié d'une exploration profonde, ce qui était un peu le cas de Messager.
Voilà, il y a plusieurs biographies, mais un petit peu imprécises, on va dire.
Qui ne sont pas dans le sens scientifique tel qu'on l'accorde actuellement, qui sont des souvenirs et parfois
notamment
une évocation.
Ceux d'Henri Février, qui était un proche du compositeur.
Qui est très intéressant. Parce que c'est vraiment de la parole de première main de quelqu'un qui a été vraiment le pupille de Messager et avec qui il a eu un contact musical, artistique et personnel durant toute sa vie.
Mais vous avez trouvé des nouvelles choses. Moi, ça m'a passionné notamment à travers, par exemple, les souvenirs de Jacques-Henri Lartigue, le grand photographe qui était aussi le gendre de Messager. On en parlera tout à l'heure. Et je propose donc qu'ensemble ce matin, eh bien, on défile un peu la chronologie de Messager en commençant par son premier succès qui s'appelait François les Bas Bleus. En deux mots juste, donc Messager, jeune musicien très doué, élève de l'école Niedermeyer, devenant ami de Saint-Saëns de Forêt, va par le hasard se tourner vers ce genre de l'opérette avec François les Bas Bleus alors qu'il était encore tout jeune.
Oui, absolument par hasard finalement, parce que à ce moment-là il est organiste, il est maître de chapelle et il est un membre très actif de la Société Nationale de Musique que dirige Saint-Saëns. Il connaît absolument tous les musiciens du temps et pour survivre, parce que la charge de maître de chapelle ou de tenir un orgue du chœur dans une église fut-elle parisienne ne rapporte pas grand-chose, il fait des travaux éditoriaux pour les grands éditeurs de ses amis. Donc Saint-Saëns l'amène chez Durand, Chabrier l'amène chez Enoch. Enoch est l'éditeur d'un compositeur d'origine belge qui s'appelle Firmin Bernica, lequel a pas mal triomphé à l'Eldorado avec un acte très ravissant et qui rêvait de faire enfin un trois actes. Et on lui commande son trois actes. Et malheureusement, ce pauvre garçon est atteint de tuberculose et il en meurt. Alors Enoch dit, ok, j'ai Messager sous la main, c'est le compositeur en devenir qui a fait quelques ballets pour les Folies Bergères, pour certains spectacles parisiens, et c'est lui qui va compléter la pièce.
Voilà, et il y a ce duo qu'on va entendre maintenant au premier acte, où, on y reviendra peut-être, Reynaldo Hahn prétend qu'on entend le passage de la plume de Bernica à celle de Messager. C'est vrai que le début est assez conventionnel, et puis tout d'un coup, ça prend un élan tout à fait extraordinaire.
Vous me rappelez à mes devoirs de professeur. Prenez donc votre cahier, une plume, de l'encre, et travaillons.
Avec soin, formez chaque lettre, écrivez, je vais vous dicter.
Comment avec un si bon maître, pourrait-on ne pas profiter?
La plume légère. Bio, bon, cela va bien mieux. Die, de, c'est pas fait ma chère. Die.
C'est bien ennuyeux.
Il faut un peu de patience pour acquérir de la science. Tout ira bien, ma chère enfant. Mais recommencez maintenant.
Bio, bon.
Franchement, je vous aime.
Tendre
amour,
dis,
jusqu'au jour suprême,
dis,
à toi sans retour,
sans voix me pénètre du plus tendre émoi, je sens tout mon être frémir malgré moi.
Quelque me pénètre, oui, je suis à toi, je veux te promettre à jamais ma foi. Elle me pénètre, oui, je suis à toi, je veux te promettre.
Le duo de la leçon d'écriture dans François les Bas Bleus, on a reconnu Lina Dachary et puis Willy Clément. Je m'arrête d'ailleurs une seconde au fait que Willy Clément, ce très grand chanteur, aurait eu 100 ans cette année. C'est une de nos fidèles auditrices qui me l'a rappelé et c'est l'occasion aussi de le retrouver aujourd'hui dans plusieurs enregistrements de messagers comme cette première œuvre. Donc vous n'êtes pas tout à fait convaincu, Christophe Mirambeau, par l'idée qu'on entend là au début de ce duo, d'abord le style de Bernica, puis ensuite dans cette grande phrase lyrique, le style de Messager.
J'ai beaucoup de mal à imaginer que Messager aurait eu cette cuistrerie alors qu'il est, il est destiné à orchestrer et à compléter les numéros manquants, de faire entendre la différence entre les deux compositeurs. Et puis, il y a aussi une question de forme. Si on écoute bien ce duo, on a quelque chose de presque de l'ordre du récitatif et du fonctionnel par rapport à la scène. Et ensuite, la manière de versifier la partie en duo avec ses phrases plus ample est évidemment quelque chose qui appelle une musicalité plus lyrique.
Bien sûr.
Et je ne suis pas aussi définitif que le divin Rinaldo.
Alors, on l'a dit, donc François les Bas Bleus, c'est en 1883, ce sont les débuts de Messager dans ce genre qui va faire sa gloire, qui est l'opérette. Sauf que, alors peut-être on peut s'arrêter à ça aussi, parce que j'ai souvent des réflexions d'auditeurs ou des questions sur la question. François les Bas Bleus, sur la partition, c'est marqué opéra comique. Et dans toutes les œuvres qu'on va évoquer, que ce soit Véronique, Les Petites Michues et autres, de temps en temps c'est opérette, de temps en temps c'est opéra comique. Pourtant, on a l'impression d'entendre des œuvres souvent assez proches comme style. Alors, expliquez-nous ce qu'il en est, Christophe Mirambeau.
Tordons une bonne fois le coup à cette habituelle remarque sur c'est une opérette, mais c'est presque un opéra comique. Non, pas du tout, c'est juste la même chose. Le moule formel est basé sur l'opéra comique 1820. Ensuite, la dénomination que l'on donne, opéra comique ou opérette, dépend simplement
des théâtres
et des volontés commerciales parfois des directeurs, ouais. Où opérette fait plus populaire et opéra comique plus élevé. Mais en réalité, en termes de genre, en termes de forme et de formulation dramatique également, c'est absolument la même chose.
La même chose.
Et ça dépend aussi, selon les époques, des différents privilèges dans les théâtres.
Et bon, donc c'est pas gênant qu'on dise que François les Bas Bleus est une opérette.
Non.
Même s'il y a marqué opéra comique sur la
partition.
N'oublions
pas que finalement, pourquoi on a désormais cette petite guéguerre entre les mots, c'est parce qu'il y a eu une période dans les années 50 où Francis Lopez a œuvré, et tout d'un coup, l'opérette qui s'est beaucoup apparentée à la chanson de variété, en termes de savoir-faire, savoir écrire, savoir composer, a perdu quelques galons. Par conséquent, ça a un peu donné une impression de médiocrité
sur le genre opérette,
Ce qui est faux.
Ce qui est faux, en tout cas, au 19e siècle et au début du 20e siècle. Alors, on peut pas évoquer tous les aspects de la carrière de Messager dans cette émission, mais on les retrouve tous dans votre livre, le passeur de siècle, André Messager, Christophe Mirambeau, qui vient de paraître chez Actes Sud. Simplement, peut-être pour en rester aux ouvrages lyriques, qui sont les vraiment de très très loin l'essentiel de sa production.
Absolument, oui.
Donc, on peut dire que le succès de François les Bas Bleus va le mettre sur ce chemin qui était un peu imprévu ou accidentel. Justement du théâtre musical populaire. Et il va très vite y retourner avec La Fauvette du Temple et d'autres ouvrages.
Oui, parce que finalement, c'est son monde. Quand il écrit François les Bas Bleus, Messager, on en parle beaucoup, il a écrit des ballets pour les Folies Bergères, il a écrit des ballets pour des féeries, mais finalement, il n'a pas encore vraiment produit. Et pourtant, c'est un nom qui compte à Paris, parce que il est l'ami et le collaborateur parfois des plus grands noms de la musique française. Le fait d'avoir réussi ce François les Bas Bleus, et c'est un exercice extrêmement difficile que de reprendre l'œuvre de quelqu'un, une œuvre inachevée qui a été composée sur un certain modus operandi, si je puis dire, et de réussir à l'amalgamer à sa propre inspiration. Du coup, évidemment, ça a amené immédiatement la commande de La Fauvette du Temple, sa deuxième œuvre aux Folies Dramatiques, été son deuxième grand succès.
Œuvre, on peut dire La Fauvette du Temple, on passe rapidement dessus, mais qui serait difficile à remonter aujourd'hui, parce que c'est quand même à la gloire de la conquête de l'Algérie sous les ordres de Bugeaud. C'est une, on peut dire une opérette coloniale. Hein.
Ah oui, absolument, qui raconte la conquête de l'Algérie. Finalement, comme le racontera en 1930 Sidonie Panache au Châtelet, évidemment, le point de vue que nous pouvons avoir sur la conquête est tellement différent de celui qui était celui des plumes du moment, qu'il est peut-être un peu difficile de remonter les scènes chez l'émir Abdelkader, dans dans les camps des Arabes.
Et la chanson de la casquette du
père
Bugeaud.
Du père Bugeaud dans l'armée française. mais il y a d'extrêmes jolies pages dans cet ouvrage.
Alors, La Fauvette du Temple, nouveau succès. Et donc, nouvelle commande. Finalement, Messager se trouve entraîné dans ce genre qui lui réussit si bien, alors qu'il aurait peut-être au départ pensé plutôt faire des opéras et des symphonies. Et la troisième grande œuvre, alors je voudrais qu'on s'y arrête un peu parce qu'on a un très bel enregistrement à la radio, c'est La Béarnaise, deux ans après François les Bas Bleus, sous-titré encore opéra comique, sauf erreur de ma part.
Et la forme est un opéra comique.
Alors, La Béarnaise en quelques mots, et puis on va en écouter deux extraits.
Alors, La Béarnaise, on se retrouve avec un Gascon qui s'appelle Perpignac, si mon souvenir est exact, et il a une sœur de lait qui s'appelle Jacquette. Et alors ce Perpignac a eu le très très mauvais goût de culbuter Gabrielle d'Estrées, qui est la maîtresse d'Henri IV, et Henri IV n'est pas vraiment content. Alors le Vergalan l'envoie dans le duché de Parme avec une pénitence tout à fait difficile à suivre pour Perpignac. Voilà. Pendant 40 jours, il ne devra parler ni toucher une femme. Alors Jacquette, qui est évidemment secrètement amoureuse de son frère de lait Perpignac, décide de se transformer en Jacquet et de partir à Parme pour aider son Perpignac de Gascon à se protéger de lui-même contre ses penchants naturels. Alors évidemment, il y a énormément de péripéties. Vous vous doutez bien qu'à la fin de la pièce, Jacquet, qui était devenu Jacquet et qui redevient Jacquet, se marie heureusement avec Perpignac.
Alors on va écouter tour à tour d'abord un madrigal très joliment chanté de Perpignac justement, toujours par Willy Clément, et puis ensuite La Berceuse, qui je crois a été une des pages les plus admirées.
C'est une page qui a été extrêmement publiée, qui a traîné sur tous les pianos.
Dans des adaptations.
Du 19e siècle, soit en piano chant, soit en version instrumentale.
Chacun, madame, à votre aspect, se dit tout bas, elle est charmante. Permettez donc, avec respect, que devant vous, je me présente. Combien je rends grâce au destin qui fait par sa vertu divine. Qu'ayant épousé mon cousin, vous allez être ma cousine. Chacun au-devant de vos pas accourt, tant on vous trouve belle. Mais chaque infortune cruelle ne peut le dire que tout bas. Moi plus heureux et plus malin, je puis vous proclamer divine. Puisque je suis votre cousin, je puis tout dire à ma cousine. Moi plus heureux et plus malin, je puis vous proclamer divine. Puisque je suis votre cousin, je puis tout dire à ma cousine.
Fais-nous, mon
et on a reconnu Fanélie Révoile après Willy Clément dans ce bel extrait donc de la Béarnaise de Messager, une œuvre ici dirigée par Marcel Cariven avec toute la troupe lyrique de la radio, et une œuvre alors qui, comme celle qu'on a entendue auparavant, François les Bas Bleus ou Miss Dollar, n'a jamais ou quasiment jamais été reprise. Christophe Mirambeau, comment est-ce que vous expliquez, évidemment, le succès d'un compositeur se polarise toujours sur un ou deux titres, mais à ce point-là
peut-être parce qu'un clou chasse l'autre, et qu'il y a beaucoup de productions, et que ce type d'ouvrage est mis dans la catégorie opérette classique. Oui. Donc finalement, des opérettes classiques, on ne ressort que dans le répertoire que les succès les plus majeurs, Fiango, Véronique, justement, voire les Saltimbanques.
Bizarrement, les œuvres de Messager d'après la Première Guerre mondiale ont été plus reprises, que ce soit Coup de roulis, Passionnément, L'amour masqué, etc., Monsieur Beaucaire, sont plus entrées dans le répertoire que celles de sa jeunesse.
Oui, plus facilement, et c'est très curieux. Peut-être parce que ce sont des œuvres, j'allais dire commerciales, dans le sens que elles sont faites pour ne durer que leur période d'exploitation. Et quand c'est un chef-d'œuvre, eh bien, tant mieux, ça continue.
Alors, il faut préciser que Messager, donc, on l'a dit, qui a une formation de grands musiciens, qui est proche d'ailleurs de la haute société musicale de l'époque, notamment à travers Saint-Saëns, Fauré, Dindy, tous ses amis, enfin, qui sont nombreux, il ne renonce pas complètement à devenir un compositeur au sens plus classique du terme. Malgré ses succès populaires, il s'essaye à la symphonie, mais finalement, il fait très peu de musique de chambre, et on ne sent pas non plus que ce soit une obsession pour lui d'être reconnu dans ce domaine-là.
Non, j'ai ressenti l'impression que son monde était vraiment le monde de l'opéra comique, que c'était sa matrice, et que c'était...
Il s'en accommode assez vite, au fond.
Oui, et il comprend très bien que sa plume est faite aussi pour ça.
Oui.
Et que son inventivité s'accorde parfaitement à ce cadre d'opéra comique que pourtant il va faire évoluer.
Mais Christophe Mirambeau, il faut dire que à côté quand même des pages lyriques, donc il y a pas mal de pages instrumentales, il y a notamment quelques grands ballets qu'on a conservés, notamment celui des Deux Pigeons pour l'Opéra de Paris.
Son premier grand succès à l'Opéra, les Deux Pigeons en 1886. Il a commencé par le ballet finalement Messager, puisque ses premières compositions et ses premières expériences de chef d'orchestre, c'est aux Folies Bergères. Où il écrivait pour le directeur Léon Sarry et le ballet des Folies Bergères, qui était tout à fait un ballet qui avait pignon sur rue dans Paris. On n'était pas dans l'époque de la revue de musicale encore. Les Folies avaient un corps de ballet. Et il a écrit le ballet, le grand ballet du Petit Poussé, par exemple. Oui. Et il a été connu comme musicien d'abord par le ballet. Donc c'est tout à fait normal que Saint-Saëns l'ait appuyé auprès de Vaucorbeil pour qu'il reçoive une commande
de
l'Opéra de Paris pour un ballet.
Et puis, il écrit également des musiques de scène.
Oui.
Il en a écrit un certain nombre au long de sa vie.
Il en a écrit relativement peu. Il y en a deux majeurs qui sont Hélène, en 1891, je pense, et pour une pièce du Vaudeville, puis pour le théâtre de la Porte Saint-Martin, une co-écriture de musique de scène avec Xavier Leroux, La Montagne Enchantée.
Voilà. Et alors, on va pouvoir écouter Hélène, justement, qui a été enregistrée il y a quelques années. C'est un disque tout à fait confidentiel, mais sous la direction de Yukata Sado, avec l'orchestre L'Amoureux. Ça avait été produit par le mécénat musical Société Générale. Vous voyez, petite fusion confidentielle, mais très intéressant. Et on va entendre une page très wagnérienne, parce qu'il faut dire que ce compositeur qui se spécialise dans l'opérette et l'opéra comique français est en fait un fou de Wagner.
C'est un wagnérien convaincu. Et qui y est tombé dedans quand il était petit, c'est-à-dire dès 1872, et la création de la Société Nationale de Musique avec Saint-Saëns. Et Hélène, c'est très intéressant, cette musique de scène a été appréciée, mais la pièce a floppé au bout de 11 représentations, et Édouard Colonne a demandé à Messager d'en tirer une suite symphonique, qui a été donnée en concert au Châtelet, au Concert Colonne, l'année suivante.
Thank you.
Hélène, suite d'orchestre sur le drame de Paul Deler, musique d'André Messager. Ça, c'était un des mouvements intitulés Aurore par l'Orchestre Lamoureux sous la direction de Yuta Casado. Et il me semble, Christophe Mirambeau, vous qui venez de consacrer ce livre passionnant à Messager, que là, on sent vraiment le wagnérisme de Messager.
Oui.
Plus que dans ses opérettes.
C'est clair. Mais finalement, il ne s'y est pas essayé beaucoup de manière aussi évidente.
Non, c'est-à-dire, contrairement à d'autres Français qui essayaient de faire du Wagner à la française, comme Dindy, Chausson ou même Chabrier, lui, il a toujours gardé une distance.
Je pense qu'il sait exactement quelle est la valeur de sa plume et où elle se situe.
Oui.
Il a l'extrême intelligence de ne pas aller dans des chemins qui lui seraient néfastes.
Voilà.
Son imagination musicale et sa muse ne le conduisent pas vers l'énorme drame wagnérien.
Mais on peut dire en même temps que dans ses opéras comiques, à partir de la fin du 19e siècle, il va quand même essayer de mettre quelque chose qui est peut-être un peu influencé par Wagner dans la construction, dans la souplesse du chant, des enchaînements d'harmonie, en sortant des airs accouplés d'une certaine façon.
Oui, absolument. C'est tout à fait ce que j'ai découvert en travaillant sur Messager, c'est-à-dire une quête de rénovation de l'opéra comique traditionnel. Au moment de la Basoche, en 1890, le directeur s'appelle Paravé, il vient de Nantes, et il est, disons, dans une démarche qui fait que on veut faire à l'opéra comique de petits grands opéras, des drames tragiques à l'opéra comique. Et Messager, avec la Basoche, reprend le genre de l'opéra comique tout à fait dans la même forme. Et la critique s'étonne, on dit comment on joue de l'opéra comique à l'opéra comique. Et puis, il y a cette volonté de faire évoluer le genre. Et il essaie en 1895 et 16, avec le Chevalier d'Harmental, d'imaginer comment le modèle wagnérien des maîtres chanteurs pourrait s'adapter, au moins formellement, à l'opéra comique français, c'est-à-dire un ouvrage intégralement chanté qui ne requiert plus le recours au dialogue parlé et où tout s'enchaîne. Donc il essaie ça, et il y a quelque chose de très wagnérien dans le tableau des bons enfants de Chevalier d'Harmental.
C'est un échec total.
C'est un échec de 6 représentations, sans doute parce que le directeur d'alors, Carvalho, a exigé des modifications qui, à mon avis, n'allaient pas dans le sens de ce que Messager avait imaginé. Et il y a beaucoup d'influence wagnérienne là-dedans, dans la forme. Et on va voir plus tard comment Messager réussit ce compromis entre l'inspiration wagnérienne et l'opéra comique à la française.
Et ça, il va y aboutir en quelque sorte dans Fortunio.
Il aboutit dans Fortunio après avoir fait un essai dans Madame Chrysanthème. Et Fortunio est un ouvrage intégralement chanté qui mélange, on va dire, la mélodie continue et la forme close, puisqu'il y a des formes d'air ou d'ensemble ou de numéro avec double barre à la fin, mais tout enchaîné dans le même ouvrage.
Voilà, alors ça c'est donc l'évolution de Messager dans le domaine du grand opéra comique, c'est-à-dire celui qu'on écrit pour la salle Favart, en gros. Et puis il y a aussi l'évolution de Messager parallèle dans le genre de l'opérette, et donc qui va le conduire à ses plus grands succès à la fin du 19e siècle, Les Petites Michues, Véronique, là où il obtient vraiment la consécration populaire.
Oui, et c'est-à-dire qu'après Le Chevalier d'Harmental, justement, qui est un four total, alors que Messager y avait mis beaucoup de lui, il avait décidé de se retirer en Angleterre et peut-être d'abandonner la composition quand il reçoit le livret des Petites Michues, qui le charme. Et il écrit très rapidement cette partition qui passe très vite à la scène, devient un triomphe. On ne change pas une équipe qui gagne. La même équipe de librettistes, Van Loo et Duval, lui demande d'écrire la musique de la future Véronique, qui est le triomphe absolu de Messager et qui finalement a éclipsé toute l'œuvre d'un compositeur grâce à un seul titre.
Voilà, alors c'est pour ça qu'on ne va pas l'écouter, mais on va écouter l'opérette suivante, qui s'appelle Les Dragons de l'Impératrice, qui elle est complètement oubliée, qui est pourtant une très belle œuvre aussi, et on va écouter juste pour l'illustrer déjà ce petit chœur très très réussi.
Dans le royaume du coco et de l'amour facile, où le cœur se met à longtemps comme un meuble inutile, notre présence en ce moment pourrait prêter à dire, en cet endroit compromito, quel charme nous attire.
Il est comme ça, le cher chevalier,
Encore un enregistrement du service radio lyrique Les Dragons de l'Impératrice, qui en fait est donc la troisième œuvre, on peut dire, du trio Messager, Vanlo, Duval, qui écrivent le livret comme celui de Véronique et des Petites Michues.
Et qui reprennent les mêmes formules, d'opérettes historiques, où on peut emmener sa fille, toujours demoiselle, sans l'ombre d'une inquiétude. C'est ce qu'on retrouve beaucoup dans la critique du temps sur ces trois œuvres, qu'on peut amener les jeunes demoiselles au théâtre sans crainte d'être offusqué ou que la morale soit ne serait-ce qu'écornée.
Mais pourquoi alors est-ce que les deux autres ont marché et pas celle-là, Les Dragons de l'Impératrice, éclipsée par Véronique et même par les Petites Michues ?
Elle a été quand même un très gros succès.
En 1905.
Oui, en 1905, parce qu'elle a été jouée au théâtre des variétés pendant plusieurs mois, et ça a été une vraie grosse réussite. Mais il n'y a pas eu de pérennité ultérieure.
Voilà, comme le cas de beaucoup d'autres ouvrages qu'on évoque aujourd'hui, pour les remettre peut-être un petit peu dans les oreilles et donner envie de les redécouvrir avec vous, Christophe Mirambeau, à l'occasion de la sortie de votre livre sur Messager. On va pas s'étendre sur un sujet qui a déjà été souvent abordé sur France Musique, mais faut quand même rappeler que dans ces années où il fait évoluer l'opéra comique français, où il connaît ses grands succès d'opérette avec donc Véronique et Fortunio dans le genre de l'opéra comique, en même temps, il s'affirme comme un des plus grands chefs d'orchestre de son époque, et c'est ce qui donne aussi un tour nouveau à sa carrière.
C'est un homme qui est au service de la musique, et pas forcément de sa musique, mais de la musique des autres. Oui. Quand il prend la tête de la direction de la musique à l'Opéra Comique, lorsqu'Albert Carré en est nommé directeur, il va permettre à des œuvres aussi emblématiques que Louise de Charpentier et Péléas et Mélisande de Debussy d'éclore et de vivre et d'éclairer toute la musique, voire de la changer pour les 50 prochaines années. À tel point que, évidemment, il dirige ces œuvres-là et on découvre à quel point il est un chef extraordinaire. Le grand opéra Syndicate de Covent Garden l'invite à être le directeur de la saison de Covent Garden entre 1904 et 1907. Il dirige le théâtre, on ne le voit que très peu dans la fosse, mais il invite les plus grands artistes, il a des programmations très intelligentes, et ensuite il finit directeur de l'Opéra de Paris.
Voilà, donc c'est un très grand chef d'orchestre qui joue un rôle central aussi à ce titre-là dans la vie musicale de son époque. Et puis, Messager, alors là, autre grande rareté, on va écouter un petit extrait maintenant, va quand même faire une tentative dans le domaine de l'opéra pas comique. C'est une œuvre qui s'appelle Béatrice en 1913. Peut-être vous nous en dites juste quelques mots et puis on va écouter un extrait de cet ouvrage.
C'est une œuvre absolument étonnante qui est écrite d'après une nouvelle de Naudier, et Béatrice est une sœur dans un couvent. Elle retrouve par hasard son frère de lait dont elle était follement amoureuse. Elle quitte le couvent avec lui. Malheureusement, c'est un coureur. Il va la lâcher. Elle va se retrouver à devenir danseuse de cabaret sous le nom de Ginevra. Et enfin, elle reviendra au couvent, moribonde, et sauvée par la Vierge qui étend le manteau de la communauté sur elle. Et l'œuvre offre un panel d'expressions musicales à Messager absolument incroyable. Elle est très dramatique au sens théâtral du terme, fort bien écrite du point de vue du livret. Et musicalement, et d'une très 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 haute tenue. Messager s'engage dans une voie plus dramatique et il n'y démérite pas du tout, du tout, du tout.
Le passage qu'on va entendre maintenant,
c'est le début du deuxième acte entre Lorenzo et Béatrice, où elle a quitté son couvent avec son amant et ils sont dans la baie de Naples et il lui chante son amour après avoir quitté le couvent.
écoutez-moi, Madame Béatrice.
Béatrice, opéra en quatre actes d'André Messager. Alors ça, c'est vraiment l'unique enregistrement hein, par l'orchestre lyrique de la radio-télévision française de 1957, avec notamment Jacqueline Brumaire et Raphaël Romagnoni qu'on vient d'entendre, Christophe Mirambeau, une œuvre qui a été un peu victime de la guerre, parce que ça a été créé, je crois, juste à la veille de la Première Guerre mondiale.
Oui, ça a été créé à Monte-Carlo chez Harold Gainsbourg en 14, et puis repris en 17 pour la création parisienne à l'Opéra Comique. Ouais. Et en 27, ça a été repris dans une nouvelle production, mais on n'en était qu'à la 14e représentation.
Et d'après vous, c'est une œuvre qui mériterait d'être
recréée. Je pense que vraiment, ça mérite d'être réentendu dans toute son ampleur.
Il faut préciser aussi que, on parle de la guerre, donc de cette période de grand rapprochement franco-britannique, que Messager, vous avez dit qu'il était devenu chef d'orchestre à Covent Garden, et il a eu en fait assez tôt une vie importante aussi à Londres, une activité à Londres. Il y a vraiment, c'est un musicien franco-britannique presque.
Oui, presque, effectivement, parce que dès le succès de la Basoche à Paris, Doyle Carte, qui vient de construire un nouveau théâtre, le Palladium, demande à Messager la version anglaise de la Basoche, qui va être jouée avec succès à Londres.
Et il va même écrire des pièces spécialement pour Londres.
Et du coup, Doyle Carte toujours, à cause de la dispute qui empêche les nouvelles œuvres de Gilbert et Sullivan, demande à Messager une musical comedy dans le style des Savoy Operas de Gilbert et Sullivan, qui va être Mirette. Alors, bizarrement, c'est un sujet français qui a été traduit en anglais, pas très bien. Il y a une première version qui est pas très, très, très réussie. Et puis, le théâtre ferme pour l'été. Messager travaille d'arrache-pied. Il refait la version avec un nouvel auteur. Et ça roure en septembre. Et là, ça tient jusqu'à Noël. Dans des termes londoniens, c'est un flop. Mais dans des termes parisiens, c'est un succès.
Il faut ajouter à cela que Messager, en plus, a une seconde épouse qui, elle-même, est écossaise.
Absolument. Miss Hopper Temple. Son vrai nom, c'est Dottie Davis. Et elle est compositrice et elle est venue à Paris pour prendre des cours avec Messager. À mon avis, ils n'ont pas fait que ça à ce moment-là. Et puis, elle a été sa collaboratrice sur cette fameuse Mirette. Et à la mort de sa première épouse, Messager va épouser Miss Hopper Temple, qui sera sa seconde épouse, donc qui se partage sa vie entre Paris, dans le 8e arrondissement, et puis le cottage que possède Hope en Angleterre. Elle est compositrice de mélodies et de songs dans le genre anglo-saxon, qui sont très 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 populaires alors.
Alors c'est donc tout naturel que Messager écrive à la fin de la guerre une œuvre qui célèbre l'amitié franco-anglaise.
Oui, absolument. Et puis c'était devenu un nom, c'était devenu vraiment une grande personnalité de la musique. Et il écrit ce Monsieur Beaucaire, qui est l'histoire hypothétique d'un barbier qui se découvre être le frère du roi, que l'on appelle pour lui succéder à la mort d'Udi. Et c'est un énorme succès en 1919. De ce Monsieur Beaucaire, musical comédie, qui est vraiment écrite selon les canons anglais de la comédie musicale anglaise, à laquelle Messager, comme un an plus tard Marcel Lattès, se plie parfaitement.
Oui, alors on connaît aujourd'hui évidemment beaucoup mieux cette œuvre dans la version française, qui a même été reprise à Radio France il y a deux ou trois ans, en version concert. Là, on va entendre donc cette version anglaise qui date de 1919, d'abord par Maggie Tate, qui a été une des créatrices.
Hein, absolument.
Et c'est très joli, cette façon très comédie musicale qu'elle a de chanter. Et ensuite, un air inédit que vous avez retrouvé.
Oui.
Vous nous expliquerez tout de suite après ce que c'est que cet air.
On the dancing hill, the stars are dim, the golden fever hung.
Deux extraits de la version originale anglaise de Monsieur Beaucaire, d'abord dans un enregistrement radiophonique donc avec la créatrice Maggie Tate, et puis ensuite une rareté que vous avez retrouvée, Christophe Mirambeau, cet air White on Gold on Blue, qui est chanté ici par Philippe Brocard dans un disque messager que vous venez de superviser, qui va sortir chez Naxos dans quelques jours.
Oui, c'est un disque que nous avons fait avec les frivolités parisiennes, qui s'appelle Tea for Two, où on explore les rapports entre Paris et Londres, de la belle époque aux années folles.
Oui, d'ailleurs, c'est pas du tout, contrairement à ce que je dis, un disque messager, c'est un disque où on retrouve aussi bien des Anglais comme Ivan Caril, et des Américains comme Vincent Humans, des Français comme Lattès, Rodolphe Berger, Fourdrin, enfin tout cet esprit de l'époque.
Oui, ouais. Toute cette musique extrêmement riche et qu'on ne connaît plus et qu'il est passionnant de redécouvrir. Et je voulais rendre un hommage à Messager à Londres. Et il existait cette air qui a été écartée des représentations londoniennes, qui n'a jamais été enregistré puisque non joué. On peut le comprendre parce qu'il est très tendu et on se dit que tous les soirs et parfois deux fois par jour, le rôle de Beaucaire qui est assez écrasant avec cet air qui est très demandant, c'est sans doute pour ça qu'il a été écarté. Et quand on l'écoute, on peut voir la caractéristique de la musical comédie anglaise où on voit que ça a quelque chose d'à la fois sentimental et très opératique. C'est une couleur très particulière qui est caractéristique vraiment du musical anglais.
Voilà. Mais c'est néanmoins la version française qu'on connaît le mieux. Et il faut le rappeler, puisque aujourd'hui, le théâtre Marigny s'apprête à redémarrer une histoire musicale. C'est à Marigny que la version française de Beaucaire, quelques années plus tard, a été créée avec un immense succès.
Oui, effectivement, c'est en 1925. Pourquoi, d'ailleurs, cet opéra n'avait pas été créé
repris tout de suite,
parce que,
après Londres.
Parce que il ne représentait peut-être rien pour Paris. Et puis Volterra, qui reprend en 25 Marigny et qui le refait de fond en comble, pense à quelque chose de particulier. Il y a une raison absolument commerciale. En 1924, quel est le film à succès international qui sort? C'est Monsieur Beaucaire avec Rudolph Valentino.
Ah oui.
Et c'est un succès interplanétaire sur les écrans. Et Volterra dit, mais bien sûr, Messager a écrit une musicale comédie sur Monsieur Beaucaire, mais c'est ça qui va ouvrir mon théâtre.
Monsieur Beaucaire, donc c'est la célébration de l'amitié franco-britannique à la fin de la guerre et après la guerre. Ce qui est extraordinaire, Christophe Mirambeau, c'est que Messager, qui est déjà un vieux compositeur, contrairement à d'autres plus jeunes que lui, comme Reynaldo Hahn, va tout de suite se tourner vers le nouveau genre à la mode, c'est-à-dire la comédie musicale légère, lancée par Yvain, Christinet, etc. Lui va vite, très vite se rallier à cette nouvelle tendance de la musique légère.
Oui, parce qu'il est toujours en recherche, l'esprit en alerte, ouais. Et il n'est pas du tout un compositeur croupi dans le 19e.
Il ne cherche pas à protéger la grande opérette
exactement.
Traditionnelle.
C'est très amusant dans le San Francisco Observer, on l'interview et il dit qu'il adore le jazz et qu'il trouve ça absolument formidable. Ouais. Et c'est évidemment le gros titre de la note du quotidien ce jour-là, et il est toujours en train d'être dans la mouvance. Par exemple, juste après-guerre, c'est quand même lui qui dirige à Paris aux Champs-Élysées les Biches et le Train Bleu
De Poulenc et de Millau, jeune avant-garde.
Pour les ballets russes, c'est à lui que Poulenc et Millau font appel pour diriger l'orchestre.
Voilà.
Et il est toujours dans cette mouvance, et donc pourquoi ne pas intégrer les dernières nouveautés à ses conceptions musicales.
Et c'est comme ça qu'il se lance dans ce qu'on va appeler à ce moment-là la comédie musicale, dès 1921, à l'époque de Tabouche et de Dédé, avec La Petite Fonctionnaire.
Absolument. Sacha Guitry dit « Ah, c'est moi qui ai inventé le terme comédie musicale avec L'Amour Masqué ». Non, c'est pas vrai. Il y a quelques exemples avant, dont cette Petite Fonctionnaire, qui est absolument délicieuse.
C'est une œuvre grand format, d'ailleurs, c'est créé à Mogador.
C'est d'après une pièce de Capu. Et sans doute, l'écriture qui est encore très chantournée et très, on va dire, très opérette classique, étonne le public à un moment où on joue Fifi et Dédé, qui est de l'opérette jazz. Donc,
bien sûr.
Et puis Mogador qui vient d'ouvrir. Voilà.
Ça reste classique, mais c'est quand même de la comédie musicale.
Voilà.
On va écouter tout de suite deux extraits. 50 ans, c'est le bel âge, n'est-ce pas, cher Christophe Mirambeau? La cinquantaine, en tout cas. Et puis, tout de suite après, justement, l'air de la petite fonctionnaire. C'est quand même un sujet très moderne dans une opérette qu'une employée des postes devienne l'héroïne d'une comédie.
50 ans, c'est l'âge admirable, on peut tout faire, tout oser.
Mais non, c'est l'âge inexorable où nous devons nous reposer.
À 50 ans, l'expérience nous permet de toucher à tout.
À que nous sert notre science si notre jeune n'a plus d'atout? Papa Jonel, tu ne seras pas éternel.
Pour le moment, cher le Bardin, je suis un peu là, c'est certain.
Papa Jonel, tu ne seras pas éternel.
Pour le moment, cher le Bardin, je suis un peu là, c'est certain. Nous pouvons tromper notre femme, tous les plaisirs nous sont permis.
Hélas, bien court est ton programme, tu te vantes, mon cher ami.
Jamais je ne fus plus en verve, tu le vois, donc passera ça.
Ami, que le ciel te conserve, je ne jalouse pas ton sort. Papa Jonel, tu ne seras pas éternel.
Pour le moment, cher le Bardin, je suis un peu là, c'est certain.
Papa Jonel, tu ne seras pas éternel.
Pour le moment, cher le Bardin, je suis un peu là, c'est certain.
Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition et de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Pour vous, je serai complaisante, accueillante, prévenante. Si quelque grinche se fâchait, vite pour calmer sa colère, je mettrai afin de lui plaire mon plus doux sourire au guichet. Dans mon service, je ne suis pas une novice. Et l'on peut se fier à moi pour ce qui touche à mon emploi. Je suis la petite fonctionnaire ayant pour toute ambition et de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction. Une lettre pour une dépêche à transmettre, pour l'envoi d'un colis postal, pour mettre sous bande un journal, pour un appel téléphonique, pour un mandat télégraphique, pour les exprès, les imprimés, les reçus, les mots supprimés, pour épargner la longue attente aux amoureux, postes restantes, pour les paiements, les versements, les chargements, renseignements, pour les taxes supplémentaires, échantillons, papiers d'affaires, lettres de deuil ou billets doux, même pour un timbre à dessous. Que je sois calme ou bien nerveuse, que je sois lugubre ou joyeuse, qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, qu'on soit en décembre ou juillet. Au bon public, je suis fidèle, je veux le servir avec zèle, car je désire être avant tout, par-dessus tout et jusqu'au bout. Et le cas n'est pas ordinaire dans notre administration. Une petite fonctionnaire ayant pour toute ambition et de vous servir et de vous plaire en remplissant bien ma fonction.
La petite fonctionnaire d'André Messager, 1921. Ici, c'était Fanélie Révoil. Et puis, juste avant, René Lénotti, Gaston Rey, très bons acteurs, chanteurs, Christophe Mirambeau. Et vous le soulignez, c'est quelque chose qui change dans l'histoire de l'opérette avec ses comédies musicales Nouvelle Manière, par exemple. C'est que dans les opérettes de Messager autrefois, comme Véronique, par exemple, ça se passait toujours dans l'histoire avec... des princesses, des rois, etc. C'était toujours à une autre époque. Là, tout d'un coup, c'est la contemporanéité du sujet de l'opérette. C'est une fonctionnaire. On est en 1921 et l'action pourrait se passer en 1921.
Oui, absolument. C'est la grande nouveauté de l'époque. Depuis les révolutions menées par Wilmette, on ose des sujets contemporains qu'on osait d'ailleurs à Londres encore 20 ans avant déjà, hein, comme je pense à The Shop Girl d'Yvan Caryll. Mais tout d'un coup, en France, ça apparaît. Et la même année, on a cette petite fonctionnaire qui est contemporaine, mais on a aussi l'arrivée de Dédé.
Et c'est ainsi donc que Messager, vieil et illustre compositeur, va se rapprocher de la jeune garde des années 20, de Villemetz, de Sacha Guitry, d'Yvonne Printemps. Ils vont tous travailler ensemble pendant plusieurs années. Mais il y a un personnage, ça j'ai découvert ça vraiment dans votre livre, Christophe Mirambeau, qui joue un rôle central là-dedans, c'est Jacques-Henri Lartigue. Le gendre de Messager, puisqu'il a épousé sa fille Bibi
Messager.
Et il va contribuer à ce rapprochement parce que il a peut-être une petite aventure lui-même avec Yvonne Printemps, non?
Ah oui, voir une grosse aventure, effectivement.
Elle avait eu combien d'amants, Yvonne, d'après ce qu'elle disait?
Elle disait qu'elle en avait eu 396, quelque chose comme ça, à la fin de sa vie. Et effectivement, c'est peut-être l'article qui a soufflé à Yvonne Printemps le nom de Messager à Sacha pour L'amour masqué, puisque la pièce devait être mise en musique par Yvan Caril, qui a eu...
Donc Sacha Guitry écrit cette pièce pour Yvonne Printemps.
Oui, dont la musique devait être signée d'Yvan Caril, qui était le grand compositeur britannique. En réalité, il était belge. Mais en tout cas, britannique à la mode. À ce moment-là, il était aux États-Unis à Broadway, en train d'écrire une nouvelle pièce. Et puis, paf, il meurt.
Bah,
il
décidément, décède. Messager hérite toujours des...
Exactement.
des compositeurs qui meurent.
Et du coup, je soupçonne tout à fait Yvonne d'avoir suggéré à Sacha de demander à Messager d'écrire la musique de L'amour masqué, parce que Sacha, de toute façon, ne pouvait travailler qu'avec des gloires. Il n'allait pas prendre un musicien débutant. Et il est très possible que Lartigue ait suggéré à Yvonne que, voilà.
En tout cas, aujourd'hui, où Lartigue est devenu un personnage célèbre de l'histoire des années folles, on ne sait pas toujours qu'il était le gendre de Messager, et qu'on trouve aussi bien dans ses photos que dans ses écrits beaucoup de détails passionnants sur Messager, que vous utilisez d'ailleurs en partie dans votre livre.
Oui, il y a des tas de petites anecdotes. Par exemple, je m'étais toujours demandé comment Denise Gray, la célèbre comédienne, s'était retrouvée dans la distribution de Passionnément, et c'était sa première expérience théâtrale. Et j'ai découvert, en faisant mes recherches approfondies sur Messager, qu'en réalité, Denise Gray était extrêmement copine avec Bibi Messager. Elles allaient faire du nudisme à Royan ensemble. Il y a des photos...
Du nudisme,
oui,
carrément.
Il y a des photos d'Henri Lartigue, d'elles deux. Et donc, en fait, c'est Bibi Messager qui a demandé à papa de faire intégrer Denise Gray dans la distribution de Passionnément. C'est pour ça qu'elle fut la bonne de la pièce.
Voilà. Alors, on va retrouver tout de suite Yvonne Printemps qui évoque quelques souvenirs de L'amour masqué. Bon, quelquefois, elle brode un peu, mais là, ça me semble à peu près juste. Enfin, je sais pas, c'est une émission radiophonique avant-guerre où Yvonne Printemps parle de ses succès. Et puis, on va écouter un tout petit extrait de L'amour masqué qui est donc le grand succès d'Yvonne avec André Messager et Sacha Guitry.
Allô? Allô? Allô, madame Yvonne Printemps?
Moi-même, le musicien Yvan Caril, qui était venu demander un livret d'opérette. Il avait eu beaucoup de succès en Amérique, de très grands succès. Il le prend, il l'emporte avec lui en Amérique, où il devait se rendre pour une quinzaine de jours. Et, hélas, il meurt sur le bateau. On oublie ce projet, on range ce livret d'opérette dans un tiroir. Et un soir, le merveilleux messager arrive dans la loge et dit simplement, « Pourquoi pas moi ?» Pensez la joie, l'émotion, enfin, tout ce qu'on peut ressentir. On lui donne le livret et le lendemain matin, à 10h, il apportait l'air « J'ai deux amants » qui ne comportait qu'un seul couplet car ça ne devait pas être chanté dans le livret initial. On lui a refait un second couplet et tous les matins, pendant un mois et demi, il apportait une chose étonnante, la musique la plus ravissante, la plus distinguée, la plus spirituelle, la plus française. Et il avait 70 ans.
Pour être heureux, je crois qu'il faut être amoureux.
Bon, quand on chante comme ça, Christophe Mirambeau, on peut bien broder un petit peu. Vous dites que c'est la version de l'histoire d'Yvonne Printemps n'est pas tout à fait exacte.
Je n'étais pas là, évidemment, hein, mais ça sent la construction de mythes.
C'est ce que lui avait appris Sacha.
Oui, elle a bien pris les leçons de Sacha sur la fabrication de son image et de la fabrication de l'idée aussi.
En tout cas, donc, on l'a dit, Messager, à la fin de sa vie, enchaîne les succès qui, eux, resteront relativement longtemps au répertoire. Coup de roulis, passionnément, sa dernière œuvre, donc tous les deux après L'amour masqué, qui vont vraiment faire de lui plus que jamais une espèce de personnage extraordinaire dans la vie musicale, parce que c'est à la fois le grand héritier de l'école musicale française et le maître de la musique légère qu'admirent tous les jeunes compositeurs.
Oui, il est une espèce d'icône de la musique française, parce que finalement, je comprends que ça pouvait avoir quelque chose d'étonnant de voir un vieil homme de 75 ans écrire de la musique aussi jeune, avec tellement d'énergie. Ouais. Pour la première de L'amour masqué, il s'est évidemment bataillé avec le chef d'orchestre, qu'il a fait virer, il a pris la baguette lui-même, et il adapte les contraintes nouvelles du théâtre musical à sa plume et à son inspiration, et c'est fabuleux.
Et puis, il faut ajouter qu'alors Messager, comme son ami Fauré, était quand même un homme à femme. Hein, et toute sa vie, il a eu deux épouses, mais aussi pas mal de maîtresses. Il était très coureur. Et c'est d'ailleurs un sujet, au fond, le sujet de l'amour, de l'homme vieillissant et amoureux, etc. C'est des choses qu'on retrouve continuellement dans ses œuvres.
Hein. Oui, curieusement, ces librettistes ont souvent évoqué la question.
C'était peut-être en pensant à lui.
Possiblement, parce que ses biographes précédents, Michel Auger-Larrivé et Henri Février, bizarrement, glisse sur le sujet Messager séducteur, alors qu'on a au moins deux preuves absolues de ce trait caractéristique, notamment avec Marie Garden, dont il fut l'amant passionné pendant 4 années.
Et c'est puis, pour ça qu'elle a chanté Mélisande, on le sait.
Et la Kouznetsova Sova quand il était directeur de l'opéra.
Et d'ailleurs, à la fin de sa vie, il écrira encore des recueils de mélodies dans lesquelles il ne parle que de ça, l'amour, la bien-aimée, la vieillesse malgré tout aussi. Je vous propose d'écouter une de ces mélodies chantée par Jean-Baptiste Dumora, son arrière-petit-fils, avec Didier Puntos au piano. Ça s'intitule « Quand tu passes, ma bien-aimée ». Jean-Baptiste Dumora dans une mélodie de son arrière-grand-père André Messager, extraite du recueil Amour d'hiver. Christophe Mirambeau, vous venez d'écrire Le passeur de siècle, André Messager, aux éditions Actes Sud. On pourrait passer des heures à parler évidemment de ce grand compositeur, on y reviendra. Mais vous sortez, on l'a dit également, en même temps un disque avec la compagnie des Frivolités Parisiennes, avec beaucoup de musique de l'entre-deux-guerres. C'est une de vos passions, Christophe Mirambeau. Vous êtes un homme qui fait mille choses avec beaucoup d'énergie, et vous montez depuis quelques années avec cette jeune compagnie qu'on avait reçue ici, des spectacles autour du répertoire justement des années folles.
Hein. Oui, parce que la compagnie des Frivolités Parisiennes est une jeune compagnie en effet, et qui est dirigée par deux garçons, Mathieu Frano et Benjamin Alarbi, qui sont férus de recherche appliquée, comme moi, c'est-à-dire d'aller dans les bibliothèques et de découvrir des ouvrages qu'on n'a pas entendus et qu'il faut absolument entendre, et qui font tout pour qu'on puisse les entendre. C'est comme ça que ce disque est né, où on a dit qu'on allait faire un disque de choses rares et goûteuses et savoureuses, et qui représente la musique française et la musique anglaise ou américaine dans ces 20 années du début du 20e siècle.
C'est comme ça que vous avez monté aussi Yes, Gosse de Riche, des revues d'avant-guerre, vous n'arrêtez pas. Moi, je pense que quelqu'un comme vous, vous devriez avoir un théâtre et des subventions.
Ah, mais rêvons-y. Lançons un appel.
Bon, Christophe Mirambeau, on se quitte avec un autre extrait donc du disque que vous sortez avec les Frivolités Parisiennes. On l'a pas choisi par hasard parce que c'est un hommage à Messager rendu par un de ses disciples que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Il est très oublié aujourd'hui, Louis Betz, mais là vraiment, dans son opérette Moineau, il fait évidemment allusion à Véronique.
Oui, c'est une magnifique mélodie sur l'escarpolette où dans Moineau, deuxième acte, le personnage se retrouve à l'endroit où Florestan et Véronique se sont retrouvés au moment de l'escarpolette, et Louis Betz qui révérait un messager qui l'a aidé et dont il fut sans doute l'élève, rend hommage au maître.
Et c'est chanté par...
Et c'est chanté par Philippe Brocard, accompagné par le Frivole Ensemble.
Eh bien, merci beaucoup Christophe Mirambeau. J'espère que vous reviendrez nous voir très vite et à bientôt.
Merci beaucoup Benoît.
Cette guinguette a son histoire, et cette escarpolette, c'est une escarpolette notoire. Véronique s'y balançait, là sous sa jupe en mousseline, dans le caprice abandonné de l'escarpolette canine. Se révélait la percaline d'un long pantalon festonné. Poussez l'escarpolette, non, je demeure hésitant. Les amours en troupe follette sont partis avec Florestan. Pourquoi pousser l'escarpolette qui se balance au gré subtil du vent léger? L'amour seul pourrait s'en charger. Laissons le zéphyr encager. Pousser l'escarpolette. Un artiste accordé sa lyre pour voir les amoureux chantant. À travers la tendre chronique, les amants iront répétant l'aveu dont la ferveur unique, touchant le cœur de Véronique, fit le Pousser l'escarpolette. Non, je demeure hésitant. Les amours en troupe follette sont partis avec Florestan. Pourquoi pousser l'escarpolette qui se balance au gré subtil du vent léger? L'amour seul pourrait s'en charger. Ce divin messager, poussez l'escarpolette.
L'hommage musical de Louis Betz à son maître André Messager, cet extrait du disque T42 par les Frivolités Parisiennes, le répertoire de la Belle Époque et des Années Folles, un disque qui va paraître incessamment chez Naxos, avec le concours de Christophe Mirambeau qui était mon invité ce matin et dont je ne saurais trop vous recommander donc le livre André Messager, le passeur de siècle, qui vient de paraître aux éditions Actes Sud avec le concours du Palazzetto Brusane. Et puisque nous avons parlé du wagnérisme de Messager, eh bien j'invite les wagnériens maintenant à tendre l'oreille pour voir s'ils vont reconnaître ces quelques thèmes de la tétralogie un peu trafiquée. Souvenir de Bayreuth, c'est le nom de ce quadrille pour deux pianos composé par André Messager et son ami Gabriel Fauré. Alors, retour de Bayreuth, alors ils reprennent effectivement des thèmes de l'anneau du Nibelung, mais pour en faire des petites danses frivoles. Voilà, c'était ça aussi l'esprit de l'époque.
Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre, France Musique.
Et puis vous avez été nombreux à me dire que vous aviez beaucoup aimé la semaine dernière le Cheek to Cheek, si sentimental, chanté par Fred Astaire au début de l'émission. Alors tiens, je vous ai ressorti une autre belle chanson américaine. Cette fois-ci, elle est extraite de Anything Goes, la comédie musicale de Cole Porter. Et elle est chantée par sa créatrice Ethel Merman. Ça s'appelle I Get a Kick Out of You. En somme, les paroles, eh bien, ça vous dit tout simplement que le champagne ne lui fait pas d'effet, la cocaïne ne lui fait pas d'effet non plus. Et toi, tu me fais de l'effet.
My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui. And I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from champagne. Mere alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some get a kick from cocaine. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you're standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. no kick in a plane. Flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you.
Ethel Merman dans Anything Goes de Cole Porter en 1934. Et puisque nous sommes samedi, que le week-end commence, il ne me reste plus qu'à vous recommander de ne pas oublier d'aller danser au bal musette sur l'air de sa préférée. Joe Priva, qui a tellement de classe quand il joue la musique des voyous, ici sa préférée, en 1945. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duterte préparée par Annie Comier. Aujourd'hui à la technique, Valentin Bollinet avec Christophe Polano, réalisation Christine Amado. On se retrouve bien sûr samedi prochain, j'accueillerai deux grands comédiens fous de musique, Michel Faux et Julie Depardieu, pour parler de la pièce Fric Frac. D'ici là, eh bien, bon week-end à tous sur France Musique. Vous retrouvez maintenant Sébastien Linares dans Guitare, Guitare.
À réécouter sur francemusique.fr.